Bonjour à toutes et à tous, c'est l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes, un rendez-vous proposé toutes les deux semaines par l'ADAVEM de l'Aveyron. L'ADAVEM de l'Aveyron, c'est l'association départementale d'aide aux victimes et de médiation. Et avec moi, une médiatrice familiale diplômée d'État à l'ADAVEM 12, Lucia Vintila. Bonjour Lucia.
Bonjour David.
Tout va bien ?
Tout va bien, oui.
Une invitée aujourd'hui dans l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes. Alors c'est pas une invitée dans les studios comme on a eu parfois, c'est une invitée par téléphone, elle est pas à l'autre bout du monde. Hein.
Non mais elle est un petit peu loin. J'ai invité aujourd'hui dans l'émission Marie-Caroline Dexpax, qui est médiatrice familiale diplômée d'État, qui est formatrice et qui est analysateur de pratique. En effet, j'ai connu Marie-Caroline il y a un an et demi déjà, quand j'ai commencé l'analyse de pratique avec elle. Bonjour Marie-Caroline et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans l'émission.
Bonjour Lucia, mais écoute, je t'en prie, et bonjour à David et bonjour à tous les auditeurs.
Oui, Marie-Caroline Dexpax, bonjour bien sûr. Loin, vous n'êtes pas si loin, hein, vous êtes du côté de Toulouse tout simplement.
Voilà, je suis dans la campagne toulousaine, dans la banlieue toulousaine.
D'accord. Le métier de médiatrice familiale, c'est le vôtre, Marie-Caroline Dexpax. Une activité que vous exercez depuis combien de temps ?
Alors en fait, c'est une reconversion professionnelle.
Ah,
et
ouais.
J'ai fait un bilan de compétences en milieu de vie et j'ai orienté donc mon activité vers la médiation familiale en 2009, après avoir fait donc l'école de formation, hein, passé le diplôme d'état de médiateur familial.
Ouais.
J'ai exercé tout de suite dans un cabinet, dans une structure, pendant plusieurs années. Puis je suis installée depuis quelques années en libéral maintenant.
D'accord. Et avant, vous faisiez quoi ? Si ce n'est pas indiscret, ça avait un lien de près ou de loin ou pas ?
Un autre univers. Je travaillais à Paris dans la communication.
Ah oui ?
La publicité institutionnelle. Oui, oui, c'est un univers ambiance. Très différent et en même temps, toujours autour... de la communication, du message, voilà.
Alors, dans l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes, avec Lucia et Justine et d'autres salariés ou bénévoles d'ailleurs de l'association, on revient sur les différents types de médiation. Et aujourd'hui, Lucia, tu as eu envie d'appeler Marie-Caroline Dexpax pour un aspect particulier de la médiation familiale.
Exactement. J'ai vu qu'il y a beaucoup de demandes dans cette direction. Et aujourd'hui, on va parler de la médiation parents-ados, de la remise en lien entre un parent qui est exclu, si je peux dire comme ça, et son enfant. Et pourquoi Marie-Caroline ? Parce que l'année dernière, j'ai fait la formation médiation parent-ado avec Marie-Caroline et elle m'a scotché par sa bienveillance, sa culture générale, par toutes les connaissances que nous avait apportées. Et je me suis dit que c'est la meilleure d'expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est la médiation parent-ado.
Ouais, alors les adolescents, enfin on le sait, on l'imagine, c'est un âge qui peut paraître difficile, compliqué. Parents, c'est pas un âge, c'est toute une vie qui est compliquée avec les enfants. C'est quoi les spécificités de la médiation parent-ado, Marie-Caroline ?
Alors la médiation parent-adolescent, en fait déjà le terme il est pas très approprié parce que la médiation, elle se fait normalement entre les parents qui sont en conflit ou qui sont séparés et on y associe l'adolescent. Donc en fait, c'est plutôt une médiation avec les adolescents. Ce qui se passe dans les séparations conflictuelles, puisqu'en fait c'est un grand champ de la médiation familiale, c'est que dans 40% des situations, il y a des enfants qui ne voient plus un de leurs parents dans les 2 ans qui suivent la séparation.
Statistique nationale ?
Ce sont des statistiques nationales.
Ah, 40%.
C'est-à-dire qu'en fait, 40% des enfants ne voient plus, ou vraiment de façon très très ponctuelle, très épisodique et pas du tout régulière, un des deux parents. Et dans 80% de ces situations, il s'agit de papas qui sont écartés ou qui se sont écartés de la vie de leur enfant. Et donc, c'est un vrai problème de société, en fait. Puisque du coup, très souvent aussi, l'adolescent qui est séparé de son parent, qui ne le voit plus, pour X raisons dont on va parler, ne voit plus non plus une partie du clan familial du côté de ce parent. Donc il y a une vraie rupture, hein, et finalement les adolescents, alors quelquefois, on va dire qu'ils s'insinuent dans les failles de la communication parentale et qu'ils profitent entre guillemets de la situation, mais en fait ils sont victimes de ça. Et c'est difficile pour eux de se construire, j'allais dire, de façon indépendante dans ces situations où ils sont bien souvent en difficulté. Il y a plusieurs états difficiles pour eux, et en particulier en loyauté avec un de leurs parents qu'ils estiment le plus en difficulté, qu'ils pensent abandonné par l'autre. Voilà, il y a souvent ces situations-là, et c'est important de remettre en présence les membres de la famille pour que tous se comprennent et que ça reparte sur de nouvelles bases.
Alors, vous dites victimes, les adolescents dans ces cas-là, Marie-Caroline, alors sans doute, hein, mais bon, à cet âge-là, parfois, ça peut être l'adolescent qui, à l'occasion d'un divorce des parents, ne souhaite plus voir son père ou sa mère pour tout un tas de raisons, bonnes ou mauvaises. Et là, vous considérez que c'est quand même une victime?
Ben oui, parce qu'en fait, si ça se passe dans une famille où il n'y a pas de problème particulier, l'adolescent, il continuera, j'allais dire qu'à un cas, tant bien que mal, à voir ses deux parents, et il aura des explications rageuses avec les, quand il sera en désaccord avec eux. Là, ce qui se passe, c'est qu'il est coupé d'un de ses parents complètement, et que du coup, il se retrouve à un âge où il a besoin, pour sa construction, et ben, d'interaction avec ses deux parents et avec les deux lignées aussi. Il se retrouve coupé d'une partie de ce qu'il a structuré jusque-là. Donc en fait, quelque part, bien sûr, il peut accentuer les choses et profiter, entre guillemets, de la situation pour ne plus voir un parent qui, par exemple, lui demanderait de ne pas sortir le soir voir ses copains, ou lui demanderait, exigerait trop de travail scolaire. Et en fait, c'est le fait de se retrouver dans cette toute-puissance et d'obtenir d'un des parents qui ne voit plus l'autre, hein, et ben c'est une fragilité, et ça fait de lui quelqu'un, effectivement, victime, c'est un mot fort, mais en tout cas qui est pénalisé par la situation.
Alors, pardon, Lucia, vas-y.
Oui, j'ai une petite question, Marie-Caroline. J'ai un cas pratique, si tu peux développer un petit peu comment ça peut se passer. Mon ado, par exemple, de 15 ans, 16 ans, n'importe, ne veut pas aller voir son père. Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme médiateurs, en ces cas?
Alors, c'est vraiment la situation tout à fait classique, puisque ça commence comme ça, hein, l'ado dit soit pour faire plaisir à son parent, soit parce que ça l'arrange qu'il veut pas aller chez son autre parent. Donc, en médiation, ce qui est important, c'est de discuter d'abord avec les parents. Parce que si le parent, on appelle le parent hébergeant, nous, qui vit avec l'enfant, ne vient pas en soutien de la mise en relation régulière du jeune avec son autre parent, on n'y arrivera pas. Donc c'est un travail d'abord avec les parents, et d'expliquer par exemple aux parents qui dit ben ouais, il veut pas aller chez son père, je vais pas le forcer quand même, de pouvoir travailler avec lui cette question et de dire bon, écoutez, demain il veut pas aller au lycée, comment ça se passe pour vous, dans la voiture il veut pas mettre sa ceinture, et d'essayer de voir ce qui est si difficile finalement pour le parent hébergeant dans le fait de soutenir la relation avec l'autre parent. Il peut y avoir eu un sentiment de trahison, il y a toujours plein de choses qui se passent dans les séparations, et il faut en parler. Il faut d'abord travailler avec les deux parents pour essayer de faire en sorte qu'ils se détachent un peu, j'allais dire, de leur conflit interpersonnel, et qu'ils pensent à l'intérêt de leur enfant et qu'ils unissent les efforts. Donc si un des deux parents, le parent hébergeant, est d'accord pour la rencontre, elle a toujours lieu, cette rencontre.
D'accord.
Et elle se passe avec le médiateur. Donc, en fait, ce qui se passe, donc, un des parents, effectivement, nous contacte. Parfois, c'est le jeune, c'est tout à fait exceptionnel, mais ça peut arriver, qui n'a pas revu son parent depuis des années, qui veut le revoir. La plupart du temps, c'est le parent écarté de la vie de l'enfant qui nous appelle, ou ça peut être les juges aussi, hein, les juges aux affaires familiales, qui décident qu'il y aura une médiation, ou du moins un entretien d'information à la médiation, pour remettre en place cette relation. Donc on reçoit les deux parents, on travaille avec eux, comme je vous l'ai dit, la question de savoir ce qu'ils pourraient mettre en œuvre pour que cette rencontre puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Et s'il le faut, on fait plusieurs entretiens avec eux. Et une fois qu'ils sont d'accord sur le processus, on fait venir le jeune. Donc le jeune rencontre le médiateur familial, et le médiateur familial, il va l'écouter. C'est vraiment une posture et un travail particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas une écoute moraliste, il n'est pas question de dicter à l'ado ce qu'il doit faire, ou lui poser des questions qui n'auraient pas de lien avec ce qui se passe. C'est vraiment explorer avec lui ses difficultés dans la situation familiale et en le traduire en besoin. En fait, à chaque difficulté évoquée par un jeune, bah là, il y avait une jeune fille qui avait, par exemple, piqué des chèques repas, là, des chèques dans vacances dans les dans le sac de sa belle-mère. Ça s'était très mal passé pour elle après, puisque elle avait été au tribunal et que son père, de son point de vue à elle, ne l'avait pas soutenue. Donc, elle a pu me raconter les différentes choses qui avaient été difficiles pour elle, comme elle s'était sentie écartée dans la maison paternelle parce qu'il y avait un autre enfant qui était le fils de sa belle-mère qui habitait à plein temps avec eux. Donc, elle arrivait un week-end sur deux comme une invitée. Elle n'avait pas de chambre. Donc, voilà, des choses qui étaient difficiles pour elle. Quand elle est allée au tribunal, son père ne l'a absolument pas défendue. Donc, là aussi, des choses difficiles pour elle. Et on les traduit en besoin, c'est-à-dire de quoi tu avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin de passer des moments seuls avec mon père, de temps en temps. J'avais besoin que mon père me soutienne et qu'il me rassure sur le fait que bah, le tribunal, c'était pas si grave que ça, ou il aurait pu l'éviter. Voilà. Donc, on fait le tour avec le jeune de tout ce qui est difficile dans sa relation avec son parent, ce qui est difficile dans la nouvelle maison de son parent. Et on va, avec lui, dans un entretien suivant, rencontrer le parent qui ne voit plus. Et donc, on va l'aider, s'il le demande, à présenter les difficultés qu'il soulève. Et on va préparer, nous, médiateurs en amont, avec ce parent-là, au téléphone, en général, on a un entretien pour savoir de quelle façon il va accueillir la parole de son enfant. Quel est son objectif, en fait ? Est-ce qu'il veut se justifier, faire des reproches et expliquer, ou est-ce qu'il veut renouer avec son enfant ? Est-ce qu'il veut poser les bases pour l'avenir, pour une relation qui sera plus solide et où chacun pourra effectivement contribuer pour que ça se passe mieux.
La médiation parent-ado, c'est le thème de l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes. Marie-Caroline Despax, médiatrice familiale à Toulouse, est notre invitée aujourd'hui. Alors là, Marie-Caroline, vous avez évoqué un exemple, un cas où c'est l'adolescent qui vous contacte et qui est d'accord pour participer, qui a un ressenti et qui est d'accord pour participer à la médiation. Mais bon, les ados ou les autres sont pas toujours volontaires. On va revenir sur cet aspect des choses et continuer de développer cette médiation particulière qui est celle parent-ado avec vous, Marie-Caroline. Mais dans cette émission, il y a de la musique aussi. C'est Lucia qui nous propose sa playlist. On commence avec quoi, Lucia ?
On commence avec Scorpions, Send Me an Angel.
Ah, Scorpion ! Ah, ouais, ouais, ça pique avec sa queue, il faut s'en méfier. Ok. À tout de suite, Marie-Caroline.
À tout de suite.
Here I am.
CFM Rhodes, c'est l'ABC de la médiation familiale avec l'ADAVEM de l'Aviron et l'invité de Lucia Vintila, médiatrice familiale diplômée d'État à l'ADAVEM 12. C'est Marie-Caroline Despax qui exerce, elle, du côté de Toulouse depuis une quinzaine d'années. Et Marie-Caroline, on parle avec vous de la médiation parent-ado avant Scorpion, là, qu'on vient d'écouter. Vous nous présentiez un exemple avec un adolescent quasiment qui vous avait appelé, donc qui était largement volontaire pour participer à cette médiation. Mais enfin, ça ne doit pas être toujours le cas, comme on fait dans ces cas-là, justement.
Non, bien sûr, c'est pas toujours le cas. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les situations où ce sont les juges aux affaires familiales qui envoient les parents et les jeunes en médiation. Donc là, il n'y a carrément pas vraiment le choix. Les parents incitent fortement leur enfant à venir.
Ouais.
Et puis, les autres, qu'on appelle nous médiation conventionnelle, qui sont hors cadre judiciaire, et où là, effectivement, on peut imaginer qu'un ado ne veut pas venir. Mais à ce moment-là, on commence à travailler avec les deux parents. On leur explique la façon dont ça se déroulerait si ça se donnait, et on demande aux parents chez qui l'enfant vit de le convaincre de venir une fois voir le médiateur et une seule fois voir son parent. Et très sincèrement, quand le parent joue le jeu, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il est prêt, il dit « bon, bah, ok, je vais lui parler, il va venir en médiation », ça se fait. Moi, j'ai très, très peu, mais c'est tout à fait exceptionnel, je crois, des cas où l'ado n'est pas venu.
D'accord.
Par contre, il est arrivé que moi, je dise non à la rencontre avec le parent.
Ah, pourquoi ?
Ben parce que là aussi, c'est relativement exceptionnel, mais c'est moi qui évalue que ça mettrait encore plus en danger la relation et le jeune. Parce qu'en fait, ils ne sont pas sur un même plan. C'est toute la spécificité aussi de ce type de médiation, c'est-à-dire qu'on a des adultes qui sont responsables devant la loi, et on a un mineur qui, lui, n'est pas responsable et qu'on doit protéger. Donc, en fait, dans cet espace, si j'évalue, il peut y avoir un parent qui est extrêmement en difficulté par rapport à ce qu'il est en train de vivre, de sa séparation douloureuse, il peut avoir un problème d'addiction, il peut y avoir beaucoup de rancœur par rapport au fait que l'adolescent n'a pas voulu le voir pendant des mois. Et moi, par exemple, un parent qui me dit « est-ce que je pourrais dire à mon enfant bah, que je ne l'aime plus, que voilà, lui régler son compte », entre guillemets, je dis non. Mais effectivement, c'est extrêmement rare.
Marie-Caroline, oui, merci. J'ai une petite question. On a vu tout à l'heure dans ton exemple un adolescent qui est bavard, qui a voulu parler avec toi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un enfant de 10 ans, qui est introverti, qui ne parle pas, qui ne fait pas confiance, qui a marre de voir tellement de professionnels, et nous, on s'ajoute encore une. Je sais qu'on a pas mal des outils, et j'aimerais bien que tu nous parles des outils que toi tu utilises. Moi, par exemple, dans une médiation, j'ai utilisé la parole écrite. Mon ado de 12 ans ne voulait pas se exprimer, il avait mal à s'exprimer, à sortir les mots, et j'ai trouvé avec elle cette astuce de m'écrire. Toi, comment tu fais pour délier la langue d'un adolescent?
Oui. Oui. Ben déjà, Lucia, tu le sais, on crée un espace extrêmement favorable à l'expression, c'est-à-dire qu'à aucun moment on met la pression. Moi, je me souviens d'un ado que ses parents avaient amené par la peau du cou et il se débattait. Et je disais, mais on va le laisser tranquille et il ne viendra parler, il ne dira ce qu'il voudra et il pourra aussi ne pas parler. Donc, en fait, déjà pour créer quelque chose où l'adolescent se sente libre de participer ou pas, c'est ce qui va le mieux déjà le préparer à s'exprimer. Et puis ensuite, effectivement, on a un certain nombre de supports en fonction des âges, en fonction des situations. Il y a, par exemple, pour exprimer ce qu'il ressent, c'est difficile pour un adulte, alors c'est encore plus difficile quelquefois pour un ado. On part à partir de cartes qui sont avec des dessins très parlants. Ils montrent des cartes, ils peuvent dire ce qu'ils ressentent par rapport à ça. On peut leur demander de dessiner sur un tableau le portrait, entre guillemets, de leur famille, c'est-à-dire de se mettre leur prénom au centre et de mettre à une certaine distance de même tous les membres importants qui gravitent autour d'eux dans la vie et puis en parler progressivement avec eux. On peut utiliser également la visio parce que pour un ado, d'avoir un écran, c'est plus familier, j'allais dire, et moins ça expose, ça protège un petit peu pour une première rencontre avec un parent qu'il n'a pas vu depuis longtemps à travers un écran. Je me suis rendu compte que c'était plus facile pour eux de redémarrer comme ça une reprise de relation. Et puis voilà, il y a après bien sûr la posture du médiateur qui n'est pas un adulte, j'allais dire, qui va leur faire subir un interrogatoire et ils s'en rendent compte très vite, hein, les jeunes. Hein. Et souvent, les parents disent, il vous dira rien, moi, il me dit tout, mais il vous parlera pas, etc. Et ça se passe évidemment complètement différemment de ce que les parents ont imaginé. Après, s'il y a beaucoup d'intervenants autour de l'enfant, moi, je demande toujours aux parents d'y réfléchir à deux fois avant de l'amener dans la médiation. Est-ce qu'ils ne peuvent pas régler entre eux déjà un certain nombre de choses avant de demander à l'enfant, encore une fois, de se retrouver au front, entre guillemets, devant des professionnels.
Alors, Marie-Caroline, vous avez dit la médiation avec les adolescents, c'est pas un interrogatoire, mais bon, c'est rarement le cas, quel que soit le type de médiation. Quand même, cette médiation parents-adolescents, elle a quelle différence ou quelles caractéristiques par rapport aux autres types de médiation dans la pratique?
Alors, dans la pratique, c'est un processus court. Alors qu'avec les parents, si c'est des médiations classiques, entre guillemets, ça peut durer longtemps. On part sur un récit de vie antérieure, on part sur des histoires d'organisation financière. Là, c'est un processus court qui est dédié à l'adolescent. Ça veut dire que, très concrètement, en général, il y a un entretien avec les deux parents. Pour le cas d'école, hein, ce qui se passe relativement souvent quand même, un entretien avec les deux parents, un entretien du médiateur avec le jeune. Ensuite, un entretien du jeune et du médiateur avec son parent, un seul, et on finit avec les deux parents. Et là, ça permet de prendre un certain nombre d'options qui sont validées par le deuxième parent à la fin de la médiation, hein, qui est réassocié, puisque les parents ont l'autorité parentale tous les deux, donc ils doivent savoir et valider ce qu'on décide pour le jeune, les deux. Et donc, c'est un processus qui est vraiment destiné à ce que le jeune puisse s'exprimer. Que j'allais dire rassuré par le fait d'avoir pu s'exprimer et d'avoir le fait d'avoir été entendu par le médiateur familial, que le médiateur soit près de lui quand il va y avoir la rencontre avec son parent. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, extrêmement bénéfique et ça marche bien comme processus. Honnêtement, et quand les parents disent, il voudra pas parler ou c'est trop compliqué ou il voudra pas venir, etc., je les invite à aller voir un médiateur et de lui poser cette problématique, cette question-là, en disant comment faire venir mon enfant, et on y parvient sans difficulté.
Ok, parce que les adolescents ont dit que c'est un public parfois difficile en termes de médiation. C'est pas des médiations plus compliquées que d'autres, celles avec les adolescents.
C'est des médiations sensibles. Je dirais pas que c'est plus compliqué parce qu'il y a d'extrêmement bons résultats avec ce travail avec les adolescents et leurs parents en médiation. Mais je dirais qu'il faut être très très vigilant et très rigoureux et respecter l'autorité parentale conjointe des parents. C'est-à-dire s'il y a pas, c'est pas un parent qui va faire une médiation avec son ado à l'insu de l'autre parent, par exemple. ça n'existe pas. C'est vraiment un cadre très clair et très précis qui permet de renouer la relation, tout simplement. Mais il y a après, on utilise les mêmes outils qu'avec les adultes. Les adolescents, souvent dans cette situation, souvent ils n'ont pas été. Lucia disait qu'il y avait beaucoup de professionnels parfois qui les entourent, mais parfois ils sont tout seuls et leurs parents ont des suivis, ils parlent à leurs amis et le jeune est vraiment isolé. Donc il est parfois bien content de pouvoir s'exprimer sur la situation et de dire ce qu'il a sur le cœur et de pouvoir expliquer pourquoi il ne va plus chez l'un de ses parents.
Lucia ?
Oui, je voudrais seulement dire que c'est vrai, l'adolescent il est reçu en cet espace de médiation, on prend en compte sa parole, ses souhaits, on le questionne, évidemment on a toute douceur, mais c'est à savoir que c'est pas l'enfant qui fait la loi, d'accord ? Ouais. C'est pas l'enfant qui décide où il veut aller ou pourquoi il ne veut pas aller, d'accord. Ça tient de l'autorité parentale qui reste conjoint et c'est aux parents à décider pour lui qu'est-ce que c'est bien. Pour ça, Marie-Caroline aussi, elle a dit qu'on fait en amont un travail avec les parents pour bien comprendre que sont eux qui doivent décider et qui ne doivent pas mettre cette poids de la décision sur les épaules des enfants parce qu'ils ont marre de décider. Après, c'est exactement. À savoir. Oui, allez-y, Marie-Caroline.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Lucia. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on imagine couramment, l'enfant n'est pas rebelle à tout cadre. C'est pas vrai. L'adolescent, il a besoin d'un cadre contenant qui va venir tester, qui va venir bousculer, c'est sûr. Mais si on a mis en place tout ce qu'il faut pour que ce soit contenant, c'est-à-dire accueillir les émotions sans être bousculé soi-même, de pouvoir effectivement, comme disait Lucia, avoir les parents qui sont présents, qui sont là, tous les deux respectés à leur place de parents, l'adolescent, il est plutôt rassuré. En fait, et il est partant du moment que ce n'est pas justement quelque chose de flou, quelque chose de où il va pouvoir prendre le dessus et contester effectivement la démarche. Là, c'est vraiment très encadré et ça se passe bien grâce à ça d'une certaine façon.
On arrive bientôt au terme de cette émission, l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes. La médiation parent-ado, c'est le thème cette semaine. Vous avez une affinité particulière pour ce public adolescent, Marie-Caroline Despax, ou non, pas particulièrement, pas plus qu'un autre ?
Si, je suis fan des ados.
Après, j'en ai trouvé une.
Tellement imprévisible et en même temps tellement riche de réflexion. Je suis chaque fois scotchée par les potentialités qu'ils développent, même quand ils sont dans grandes difficultés scolaires ou autres, même quand ils sont vraiment pris dans une situation qui les dépasse. Et ils ont quand même des ressources incroyables. Et moi, oui, je suis vraiment persuadée que c'est très important de les associer aux décisions qui le concernent. De toute façon, c'est prévu dans la loi. On associe le jeune aux décisions qui le concernent au fur et à mesure de son degré de maturité et c'est de plus en plus le cas. Là, il y a un rapport du défenseur des droits qui parle de la parole, de l'importance de la parole de l'enfant. Donc que le jeune puisse s'exprimer, c'est très important et moi je suis encore une fois frappée de la capacité qu'ont ces jeunes à la fois à contester, à râler, à exprimer ce qu'ils veulent, mais aussi à pardonner, à revenir, à proposer de nouvelles choses, à être source de propositions et responsable dans la relation qu'ils ont avec leurs parents.
Bon, écoutez, tous les adolescents qui nous écoutent vont être heureux d'entendre dire du bien d'eau, c'est pas tous les jours. Marie-Caroline Despax pour poursuivre peut-être sur le sujet, puisque vous êtes une spécialiste, médiatrice familiale, vous exercez à Toulouse, mais vous êtes aussi analyseur de pratique, c'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui reviennent avec d'autres médiateurs sur tout un tas de cas qui sont déroulés les mois précédents, et puis vous êtes aussi formatrice de médiateurs, donc vous savez plein de choses, vous êtes très informée, vous suivez tout ça. Nous, on peut se rapprocher de vous et suivre l'actualité de la médiation familiale et celle de parents, entre les parents et les ados, grâce à des réseaux sociaux.
Alors il y a même une petite petite vidéo sur la médiation parents-ados sur mon site,
oh, super, ouais.
Qui peut être vue par les parents. Ça leur donnera déjà des indications sur la façon dont ça se passe, et puis pour les ados aussi. Alors, mon site, il suffit de taper mon nom dans Google, Marie-Caroline Despax, médiateur familial. D'accord. Et on tombe directement sur mon site.
Despax, c'est D-E-S-P-A-X.
Voilà, voilà. Donc, on prononce toutes les lettres.
Ok, bah comme en Aveyron, paraît-il.
Voilà.
Bah, y a des exceptions.
Voilà.
Vous connaissez l'Aveyron, Marie-Caroline ?
Oui, je connais, j'apprécie l'Aveyron, bien sûr. Et puis à la DAVEM, j'ai beaucoup de outre Lucia, Justine, Pascal sont des amis et des collègues estimés.
Bon, bah, voilà. Vous appréciez des gens, vous connaissez le territoire, ça veut dire que vous allez bientôt revenir et puis il faudra passer par nos studios. Avec grand plaisir.
Merci
beaucoup Marie-Caroline Despax d'avoir été avec nous aujourd'hui dans l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes. Merci beaucoup Lucia pour avoir invité Marie-Caroline. Pour ce cas particulier de la médiation parents-ados, bon, moi je croyais qu'on allait s'embrouiller, qu'on allait avoir des trucs pas possibles. Non, Marie-Caroline, elle nous dit que les ados, c'est... Bon, remarque, tant mieux, c'est l'avenir. Mais ils sont super. Donc,
Super.
Voilà. Pourvu que ça dure, merci beaucoup Lucia.
Bah, merci beaucoup David et merci beaucoup Marie-Caroline pour ce témoignage.
On se quitte en musique.
Merci à toi, Lucia, de ta confiance. Et merci
grand
pour cette
plaisir.
Émission.
Oui, on se quitte
après
en musique.
Après les scorpions, on change d'animal.
On change l'animal.
Oui.
On change l'animal. Non, on change la personne.
D'accord,
parce que je n'ai pas un autre animal pour l'instant.
Oui.
Et on va se quitter avec Daniel Balavoine, Sauver l'amour.
Ah, bonne idée. Merci, Marie-Caroline.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Sa conscience, la douleur, au fond de lui, sans cette peur.